Des mots pour le dire, une émission de Redouane Espanti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le réseau FM+, que vous soyez sur l'agglomération Montpellier-Rennes ou bien l'agglomération nîmoise avec Radio Alliance Plus, le partenaire fidèle de FM+ Montpellier. Je voudrais commencer aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire par trois citations. La première est d'André Malraux qui dit « La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert ». La seconde, face à la catastrophe, on a besoin de culture, de Martine Méral. Et enfin, François Jacob qui dit « Presque tout ce qui caractérise l'humanité se résume par le mot culture ». Comprendre la culture générale, c'est le livre qu'a écrit aux éditions Ellipse Michel Théron. C'est avec lui que nous essayons de voir à travers le labyrinthe de la pensée d'hier, d'aujourd'hui et peut-être qui sait, de demain aussi, avec lui, de comprendre un peu ce qui fonde notre pensée, notre être et notre culture. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane, bonjour à tous.
Donc on démarre, on continue sur notre lancée avec une nouvelle thématique, toujours dans le même cheminement que la semaine dernière.
Voilà, nous avons parlé des rêves lors de la dernière émission et je voudrais insister sur le point suivant. Pour interpréter un rêve, il faut le relier toujours au conscient du rêveur ou à la configuration générale de l'idéologie sociale à laquelle le rêve peut répondre ou par rapport à laquelle il peut se situer. Un rêve n'a de sens que par rapport à un contexte. Ce contexte, c'est la vie consciente et la vie passée du rêveur. Ce peut être aussi l'idéologie sociale environnante, la vision du monde collective ou ce que l'on appelle l'esprit du temps. Alors il va de soi que les éléments d'un rêve en eux-mêmes n'ont aucun sens et que le sens du rêve se fait d'une relation avec une problématique psychologique particulière. Le sens, comme toujours, n'est que de circonstances. Alors, vous savez, Redouane, qu'il existe des clés des songes dont sont emplis nos supermarchés. On en a partout, au rayon du développement personnel. Qu'est-ce que vous pensez de ces clés des songes? Bon, ça fait de l'argent, hein, mais je trouve que c'est très naïf.
Oui, et puis bon, ça, c'est aussi, je pense, le reflet du désarroi ou des angoisses de notre temps qui font qu'on essaye de trouver solution ou le paradis perdu à travers ces songes.
Absolument. Mais ces clés des songes prétendent délivrer un sens unique et définitif à des éléments tirés de leur contexte. Et donc, elles n'ont aucune valeur. C'est comme si vous vouliez donner un sens à des mots, par exemple, sans voir la phrase que ces mots forment. Le rêve doit toujours être inséré dans l'ensemble d'un discours psychologique. Et ces ouvrages ou ces répertoires de symboles qui inondent nos supermarchés ne s'occupent jamais de faire cette insertion. Par exemple, vous aurez, par ordre alphabétique, crocodile. Si vous rêvez d'un crocodile, ça veut dire cela. Si vous rêvez d'un lion, ça veut dire ça. C'est absurde. Il faut voir le discours du songe et le comparer au discours conscient de celui qui le fait. Donc, exactement de la même façon, les productions artistiques, les œuvres culturelles, ne prennent leur sens que reliées à un certain contexte de nature psychologique ou idéologique, ou les deux en même temps, hein. Par exemple, pour interpréter Madame Bovary, ou bien Aurélie de Flaubert, ou bien Aurélia de Nerval, il faut se demander ce qu'il en est de l'âme en Europe à l'époque où ses œuvres sont parues. Pareillement pour une saison en enfer de Rimbaud. Alors c'était l'époque du positivisme, où on voulait tout expliquer rationnellement. Eh bien, ces œuvres sont réactionnelles, justement, à ce type de Weltanschauung, c'est-à-dire de vision du monde collective. Sans doute est-ce le positivisme ambiant qui a créé le personnage de Monsieur Homais dans Madame Bovary de Flaubert, le pharmacien. scientiste qui sait tout, hein, eh bien, le roman de Flaubert s'explique par réaction, justement, contre cette idéologie. Lorsque Rimbaud nous dit, dans Une saison en enfer, ce peuple est inspiré par la fièvre et le cancer, eh bien, il faut voir la psychasthénie, où en a été réduit l'homme occidental à cette époque, ce que Nietzsche a dénoncé sous le nom de nihilisme européen. Donc, le sens de ses œuvres, exactement comme le sens des rêves, est réactionnel, ici psychologique et historique à la fois. Donc, la démarche de l'interprétation sera de se demander, comme devant un rêve, quels sont les éléments de la vie consciente du rêveur que le rêve est destiné à compenser, à compléter et à corriger. Et se demander devant une œuvre d'art quels sont les éléments de l'idéologie sociale, de la vision du monde environnante auxquels l'œuvre apporte contradiction, démenti ou correction. Je crois beaucoup à cette idée de complémentarité. Nerval, au début de Aurélia, qui raconte justement l'envahissement de la vie réelle par le songe, nous dit en substance que le rêve est la consolation de nos peines et la peine de nos joies. Donc, il y a un rapport de compensation ou de complémentarité. Nous dormons, je crois, Redon, à peu près un tiers de notre vie, hein, à peu près. Hein.
Oh, je dormirai plus.
Vous dormirez plus. Moi aussi, volontiers. Mais il serait absurde que ce tiers de notre vie que nous passons à dormir ne serve à rien, quand même. Hein. Il me semble que y aurait là un énorme gaspillage.
Moi, je pense que, effectivement, comme la nature a besoin de passer un temps de pause, faire une pause, se mettre en veille, le corps ou notre esprit ne pourrait pas être ce qu'il est s'il n'y avait pas ce temps de veille. Mais ce temps de veille ne veut pas dire absence. Et justement, le rêve, c'est le lieu de la vie, de l'activité, voilà. Et qui est une manière aussi de trier, me semble-t-il, pas mal de choses.
Tout à fait. On revisite le programme, si vous voulez, le programme du sujet éveillé et conscient, qui est aussi modelé, façonné par l'idéologie collective, eh bien, il est revisité. Hein. C'est un puzzle que l'on décompose, que l'on recompose. Oui, le programme, au sens informatique du terme, hein, une reprogrammation. Voilà, une reprogrammation. Alors, par rapport aux productions symboliques, le rêve a un rôle évidemment très important, mais ici je vais me séparer complètement de la vision de Freud pour adopter la vision de Jung. En effet, pour Freud, le rêve n'est que le symptôme de choses qui en nous ne vont pas bien. Le rêve, Freud le ramène à un processus causal. On appelle ça, savamment, un processus étiologique de Aitia, la cause. Hein. Le rêve pourrait manifester une maladie personnelle ou sociale, et le rêve est à l'image de ce que Freud pensait de l'inconscient. C'est une vaste poubelle dans laquelle sont des éléments négatifs. Eh bien, la vision jungienne est très différente. Pour Jung, le rêve n'est pas que le symbole, le signe, l'indice ou le signal de choses qui en nous ne vont pas bien, le rêve ne montre pas seulement une cause, un processus étiologique, la maladie personnelle ou sociale qu'il manifesterait, le rêve, pour Jung, a aussi une perspective de finalité, de but. Il faut bien distinguer le symptôme, et Freud s'en tenait au symptôme, qui nous renvoie à notre passé, et dans ce cas-là, la vision peut être assez désespérante. Il faut distinguer le symptôme du symbole. Le symbole nous invite à regarder vers l'avenir, à trouver une solution au problème ou un remède à la maladie. Pour Jung, le rêve est un réservoir d'archétypes qui peuvent nous aider si nous savons bien les interpréter. Hein. En cela, le rêve a la même structure que celle des fictions, que celle des rites, des usages, des coutumes, des représentations culturelles en général, qu'elle se fasse en mots ou en images, une structure symbolique. Alors l'individu isolé, en écoutant le symbolisme de ses rêves, peut élargir sa personnalité, il va explorer, scruter ses rêves, hein, et de la même façon, une société, une culture peuvent s'élargir en explorant l'ombre aux dépens de laquelle elles se sont édifiées, et cette ombre se voit très souvent dans les œuvres. Alors, il faut donc considérer quel est le statut de l'ombre dans les productions symboliques. Il y a deux types de productions symboliques, les diurnes et les nocturnes. Hein. Je vais d'abord parler des diurnes. Qu'en est-il de l'ombre? C'est peut-être la question essentielle à poser lorsqu'on aborde une production symbolique quelconque. Alors, je me fierai ici aux images. Alain dit dans les dieux, regardez la croix au carrefour, c'est ce qui s'appelle prier. Donc, les discours sont une chose, mais souvent les images sont plus riches en signification. Je vais prendre l'image suivante, l'image de Saint-Georges à cheval qui terrasse le dragon. Cette image est souvent figurée dans les icônes, qui sont les images du christianisme orthodoxe. Hein. Alors, que nous dit cette image ou cette icône? Ils nous disent, image-icône, qu'un cavalier triomphe d'une bête. Donc, que triomphe d'une bête quelqu'un qui est lui-même monté sur une bête. La bête est sombre, le dragon est noir, hein, et le cheval est clair, il est blanc la plupart du temps. Donc je dirais que le cheval, c'est la bête apprivoisée, domestiquée. Le cheval et le dragon sont un seul et même être, mais à deux moments différents. Le dragon, c'est l'inconscient obscur, ce que Freud appelait le « ça ». Le cavalier, c'est le « moi ». Qui s'appuie sur le « ça » lui-même pour triompher du « ça », exactement comme Tarzan, qui tue les animaux tout en se nourrissant de leur propre chair, en s'incorporant leur force. On ne triomphe de l'inconscient qu'en se l'incorporant et en l'assimilant, en le domestiquant. Nous avons commencé à développer ce thème la semaine dernière. Je pense à un logion de l'Évangile selon Thomas, « Malheureux est l'homme que le lion mangera, car le lion deviendra homme. Heureux est l'homme qui mangera le lion, car le lion deviendra homme. » Ce logion peut paraître difficile. Il faut comprendre que à chaque fois, l'expression « et le lion deviendra homme » prend un sens tout à fait différent, en vertu de ce miroitement sémantique que l'on appelle en rhétorique l'antanaclase. Hein. C'est le fait de répéter une expression en lui donnant un sens différent. Donc, prenons la première partie. « Malheureux est l'homme que le lion mangera, car le lion deviendra homme », cela veut dire « malheureux est l'homme qui sera dévoré et englouti par son ça, hein, par son inconscient, non assimilé, non apprivoisé, et le lion deviendra homme », ça signifie « le lion s'incarnera en un homme, donc l'homme s'animalisera ». Mais là, dans le deuxième cas, « heureux est l'homme qui mangera le lion, car le lion deviendra homme », cela veut dire « heureux est l'homme qui s'assimilera ce qu'incarne le lion », c'est-à-dire la bestialité, le « ça », le pulsionnel. Et alors « le lion deviendra homme », ça veut dire « l'animalité s'humanisera ». Vous voyez ? Mais c'est très difficile à comprendre si on ne fait pas ce changement de perspective. C'est pour cela que cet évangile selon Thomas n'a pas été reçu, parce qu'il était destiné à des gens qui devaient toujours méditer les formules, et qui devaient être capables de faire ce changement de perspective. Alors je vais prendre un exemple maintenant qui peut-être choquera certains lecteurs, surtout à l'époque, certains auditeurs, je parle toujours de lecteurs parce que je suis habitué à écrire des livres, certains auditeurs, parce que à notre époque où il est question de les interdire, il s'agit des corridas, vous voyez. Eh bien, je dirais que la signification de la corrida, elle est identique à celle que je viens développer. Le matador, un habit de lumière, c'est le moi. Le taureau figure les pulsions. Je pense à Thésée face au Minotaure. C'est donc le combat du héros contre les forces obscures. Alors la faena, c'est-à-dire la dernière partie de la corrida, c'est un ballet ritualisé, hiératique, qui signifie et qui célèbre l'union du moi et du ça. Les gestes du matador doivent être lents, suave et calme. Le mot espagnol temple signifie cela. Il y a des matadors qui ont le temple et il y en a qui ne l'ont pas. Ceux qui gesticulent, ceux qui se laissent bousculer plus ou moins artificiellement pour faire ce qu'on appelle du trémandisme, c'est-à-dire faire s'élever la température dramatique ou émotionnelle de la corrida, eh bien ces matadors ne sont pas de vrais matadors. Il faut la lenteur. Le mot temple en espagnol vient du latin temperare, temperare qui veut dire adoucir, calmer, hein. Et notez que les cornes, dans ce cas-là, dans le cas de la faina, ne doivent qu'effleurer la muleta, toujours l'effleurer et jamais la toucher vraiment. C'est quelque chose d'asymptotique. Il ne doit pas y avoir, justement, de drame. C'est le contraire d'un sport ou d'une gesticulation. Le spectateur ne doit pas avoir peur. Les attitudes doivent être hiératiques, d'où les passes dites statuaires, avec les pieds immobiles, les pieds du matador immobiles. Et à la fin, les deux adversaires ne doivent faire qu'un. Donc on perd l'idée d'antagonisme au profit de l'idée d'une communion. Et Michel Héris, dans un grand texte qui s'appelle « Le miroir de la tauromachie », eh bien, compare l'activité d'écriture, et là je pense qu'il a raison, avec la tauromachie. C'est un chapitre qui s'appelle « La littérature comme tauromachie ». Il faut simplement effleurer les mots et ne pas se jeter sur eux, ne pas les instrumentaliser, ne pas se servir d'eux. Il faut les servir avec précaution. Donc il y a un rapport entre le temple du matador et la caresse que fait l'écrivain vis-à-vis des mots. Et moi j'ajouterai, il y a rapport aussi avec le monde de l'érotisme. Dans l'érotisme, il s'agit de faire durer le plus possible le désir et le plaisir par la caresse, justement, qui est toujours asymptotique, avant la résolution, qui serait l'estocade, justement, dans le cadre de la corrida. Michel Léris dit la chose suivante, il se produit alors le sperme et l'éjaculation des bravos, la foule qui fait ses bravos. Alors nous allons écouter maintenant une chanson de Juliette Gréco, qui peut faire réfléchir et aussi faire inquiéter.
Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter, me déchirer, me captiver. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme tous les hommes. Du poiret lourde ne doit pas être rude ni hagard. Dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue peu à peu. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi avec délicatesse, en fausse flèche. Ne te vois plus. Choisissez bien vos mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lent, ni trop leste, sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis remissant de la fête de votre main experte. Allez-y. Déshabillez-moi maintenant tout de suite. Allez vite. Sachez me posséder, me consommer, me consumer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Conduisez-vous en homme, soyez l'homme, agissez.
Sur FM+, dans l'émission Des mots pour le dire.
Des mots pour le dire, toujours avec Michel Théron, rêve et production symbolique, c'est la thématique aujourd'hui. Et la chanson donc vient d'interpréter Juliette Gréco, on pourrait dire, c'est l'éloge de la lenteur. Mais vous, vous y avez dit, au lieu de parler de l'éloge de la lenteur, vous parliez de...
Ah, moi je suis pas de... Non, je suis sûr que c'est l'éloge de la lenteur, hein, que c'est le propre de l'homme. Je dis souvent, l'homme est une différence différente. Alors, je n'orthographie pas de la même façon, c'est une différence avec un E, différente avec un A, c'est-à-dire qui diffère dans le temps la satisfaction de ses désirs, le moment de la résolution, le moment de la pulsion. Mais en même temps, je vous disais aussi,
effrayante, vous disiez.
Oui, oui, je vous disais effrayante, parce que pour un homme... Quand arrive le bon moment, on ne le sait pas. Hein. Donc, il doit y avoir de l'humour dans cette chanson, bien sûr, hein, bien sûr. Mais elle est très intéressante parce qu'elle montre ce qu'est la haute culture, la lenteur, le pouvoir de l'attente, hein, pour un homme qui est plus son maire, sûrement, à côté de la psyché féminine, hein, eh bien, c'est un peu désorientant. Ça fait un petit peu peur. Alors, je viens de parler de la corrida, et j'espère que je n'ai choqué personne. Donc, le lien que j'ai fait entre la corrida, l'écriture et l'érotisme, l'amour physique, le commun dénominateur, c'est la lenteur, le refus de la prédation, le refus d'une vision violente et violente. Là aussi, j'ai fait un jeu de mots, violente avec un E et violente avec un A, qui viole, hein, qui viole se jette sur son objet, et ça c'est éminemment culturel. Alors à côté de ces visions diurnes, il y a aussi les visions nocturnes. Il y a des cauchemars dont les œuvres justement nous montrent des exemples. Je prends l'image de l'ogre et de l'image de la fantasmatique tragique qui accompagne l'ogre. Vous connaissez tous le tableau effrayant de Goya, Saturne ou Cronos, Cronos c'est le nom en grec, hein, dévorant ses enfants. Alors c'est le temps dévore ses enfants. Hein. Eh bien, il est de la plus haute importance, il me semble, dans toute culture mûrie et non pas infantilisée, de maintenir ces figures qui appartiennent au cauchemar. Il est important qu'elles continuent d'exister. Cet archétype de l'ogre renvoie à l'image d'un dieu sadique ou méchant, au dieu de colère, au contact duquel les sociétés ont d'abord commencé à vivre. Par exemple, les Incas ont arraché de la poitrine fumante de sang le cœur du condamné et on l'offrait aux dieux. Mais ensuite, on nous a dit, enfin, c'est ce qu'on m'a dit moi quand j'allais au catéchisme catholique, on m'a dit, ce Dieu progressivement, ce Dieu de colère, s'est humanisé et s'est transformé en Dieu d'amour. On m'avait dit que le Dieu de colère ou le Dieu jaloux était celui de l'Ancien Testament, ce qu'on appelait l'Ancien Testament. Maintenant, on a changé, on parle de Premier Testament, tandis que le Dieu du Nouveau Testament était un Dieu d'amour. Alors, en y réfléchissant, d'abord, je trouve que cette vision, elle est peu bienveillante pour les Juifs, et aussi, je trouve qu'elle n'est pas vraie, parce que le Dieu de colère, le Dieu, je dirais, méchant ou sadique, je m'excuse à l'avance ces expressions qui peuvent choquer, mais enfin, tout cela, ça existe, par exemple, dans le Notre Père. Que dit le Notre Père ? Ne nous induit pas en tentation. Or, le terme grec « eisphérein », en latin « indukere », signifie bien « pousser dans »,« conduire dans ». Comme dans l'Iliade, un dieu pousse Patrocle en venant par derrière, il le pousse entre les deux omoplates pour le faire tomber et pour le faire mourir. Alors, le côté scandaleux de ce texte du « Notre Père pour l'esprit », ainsi que la vision sadique, entre guillemets, ça dit toujours de Dieu qu'il contient, est apparu très tôt aux yeux des un homme comme Marcion, que j'aime beaucoup, Marcion, à son époque, avait suggéré de traduire, non pas ne nous pousse pas dans la tentation, ou ne nous induit pas en tentation, mais ne nous laisse pas succomber à la tentation. Alors, c'est ce que j'ai appris, ne nous laisse pas succomber. Malheureusement, le texte grec, pas plus que sa traduction latine, ne correspond à cela. Mais quand j'apprenais ça, je ne voyais pas la différence. L'idée d'un dieu qui pousse l'homme en tentation, bon, Marcion a été excommunié, il n'a pas été reçu, il voulait séparer complètement le Nouveau Testament de l'Ancien. Et on est revenu aujourd'hui, maintenant, à la formulation initiale du Notre Père, qui donc continue de faire frémir, de nous faire un peu frissonner. Vous savez, dans Phèdre, les dieux antiques sont évoqués de la façon suivante. Ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle de séduire, comme induire en tentation, de séduire le cœur d'une faible mortelle. Et même un esprit, alors là, Redouane, je parle aussi sous votre contrôle, un esprit aussi apaisé et serein que Jésus a eu l'angoisse de la méchanceté de Dieu. Ce qui le montre, ce sont ces dernières paroles qui sont des paroles de doute. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Alors, ces paroles, bien sûr, sont le début d'un psaume, c'est le psaume 22. On peut penser que Jésus, étant mort avant, n'a pas eu le temps de dire la suite du psaume, où il y a effectivement une consolation. Mais lorsque je lis ce « Lamas abactani », ce « Pourquoi m'as-tu abandonné ?», hors contexte, ces paroles deviennent tragiques. Alors, les théologiens, chez nous, se sont évertués à expliquer ou à rationaliser tout cela, à le rendre compréhensible. On a dit, à partir du concile de Chalcédoine, que Jésus avait deux natures, une nature humaine et une nature divine. Et juste avant sa mort, sa nature humaine l'aurait emportée sur sa nature divine. Peut-être, faut-il le penser comme ça, mais il reste quand même cette angoisse, cet abandon ou cette déréliction. Alors, d'où ça vient, déréliction, c'est un mot savant. Eh bien, figurez-vous que ça vient justement du cri de Jésus dans la traduction qu'a fait Saint Jérôme dans sa Vulgate. Le « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est « Ut quid me déréliquisti », d'où déréliction, c'est l'abandon métaphysique. Donc, je dirais que on peut se figurer l'homme comme attendant dans la beauté des choses quelque chose qui jamais ne vient. Vous connaissez la Barbe bleue de Perrault, Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? Et la réponse de la sœur Anne, c'est Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Ça m'a toujours frappé, ça c'est tragique. C'est imité de Virgile, Anne, ma sœur Anne, Anna Soror, dans l'Énéide, hein, lorsque Didon demande à sa sœur Anne, justement, ce qu'il en est des préparatifs de Thésée qui va l'abandonner. Mais je pense aussi à Emma agonisante sur son lit de mort d'un Madame Bovary de Flaubert. Eh bien, tout ce qu'elle a espéré, tout ce qu'elle a vécu, de tout cela, rien ne s'est réalisé. Donc là, il y a du tragique. Eh bien, je pense qu'il ne faut pas l'occulter, ce tragique. Il existe, hein. Dans l'Évangile, par exemple, il y a des phrases qui font frémir. Par exemple, on lit « Il est nécessaire qu'il y ait des scandales, mais malheur à celui par qui le scandale arrive ». Alors, je sais bien qu'on peut traduire « malheur à celui par qui le scandale arrive » non pas par « malheur à qui », malédiction, mais « il est malheureux celui par qui le scandale arrive ». Le mot grec « wai », qui est traduit en latin par « wae », peut signifier cela. Mais quand même, y a l'idée d'un impossible nécessaire. Il faut, hein, ananké en grec, il faut, il est nécessaire qu'il y ait des scandales, mais que celui par qui le scandale arrive soit est maudit, soit est malheureux. Bon, alors pourquoi faut-il qu'il y en ait ? Pareillement, une phrase qui m'a toujours semblé tragique et qu'on m'a expliqué comme non tragique, c'est « le soleil, lui, sur les méchants comme sur les bons hein. ». Moi, j'y voyais l'indifférence axiologique du monde comme fondement de tout, c'est-à-dire que ce qui nous arrive est totalement... ne correspond pas du tout à notre propre mérite. Alors, indifférence axiologique, ça veut dire neutralité du point de vue des valeurs. Après, on m'a dit que chacun avait sa chance, que ça voulait dire cela. Mais je pense que cette idée d'un monde indifférent serait même plus tragique que celle d'un monde hostile, hein, c'est-à-dire axiologiquement orienté. La neutralité ou l'impartialité du monde... pour l'esprit, sont plus déstabilisantes que l'hostilité du monde. En admettant qu'il faille renoncer à tout est au mieux, une formulation qui dit « tout arrive indifféremment » me semble plus tragique que « seul le pire arrive ». Donc, Camus disait dans « L'homme révolté » que l'absurde naît de la confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Eh bien, voyez aussi la fin du « Monde des Oliviers » d'Alfred de Vigny. Je rappelle que Vigny est le seul poète romantique totalement athée du XIXe siècle. À la fin du « Monde des Oliviers », on a cette idée du silence de Dieu. L'homme cherche du sens et Dieu ne lui répond pas. Il y a persistance des images archaïques dans les cultures, même les cultures les plus apaisées, les plus iréniques, et il faut en tenir compte. Nous n'avons pas que des ancêtres, nous avons aussi des aïeux, donc le vieux fond archaïque de cruauté subsiste. Alors, vous savez que dans la tragédie grecque, les dieux s'acharnent sur les hommes, complotent pour les faire tomber. Ils ourdissent contre eux des pièges ou une machine infernale, comme il se voit dans le cas d'Œdipe. C'est la machine infernale, c'est une pièce de Jean Cocteau qui reprend le cas d'Œdipe. Regarde, spectateur, cette machine ourdie par les dieux en vue de l'anéantissement mathématique d'un mortel, hein, écrit Cocteau. Donc, il existe justement ce cauchemar. Les dieux ont soif du sang des hommes. Je vous lis deux strophes du reniement de Saint-Pierre de Baudelaire. « Les sanglots des martyrs et des suppliciés sont une symphonie enivrante sans doute, puisque malgré le sang que leur volupté coûte, les dieux ne s'en sont point encore rassasiés. » Et voici la strophe qui me fait toujours frémir. « Ah, Jésus, souviens-toi du jardin des olives, jardin des oliviers, bien sûr, dans ta simplicité, tu priais à genoux, celui qui dans son ciel riait au bruit des clous, que d'ignobles bourreaux plantés dans tes chairs vives. » Donc vous voyez, il y a un match de boxe, un pugilat de l'homme avec les dieux, et il continue en chacun de nous. Nous sommes tous Œdipe, hein. Alors les dieux peuvent être parfois nos alliés, notre berger qui nous conduit vers de verts pâturages, etc. Mais parfois, ils peuvent être nos ennemis. Il faut voir cette dualité sous peine d'aveuglement, parce que sinon nous serions angéliques. Nous nous affirmerions éternellement confiants sur notre propre destin, sur notre salut. Et lorsqu'une société s'infantilise par la simplification de ses textes ou la censure de ses images, elle se fragilise. Le catéchisme bétifie. Oui,
mais est-ce que ce n'est pas justement le cheminement de la foi, le cheminement de la religion, qui est de sortir de l'archaïsme? Et sortir de l'archaïsme, c'est de ne pas faire de ce monde un monde... manichéen, il y a le bon et le méchant. Donc le bon vivra sous la lumière et le méchant... C'est beaucoup plus complexe, c'est-à-dire on n'est plus comme du temps du cinéma muet où tout de suite on repérait qui était le bon et qui était le méchant parce que c'était vraiment caricatural. Aujourd'hui les choses sont beaucoup plus floues et qui sont à l'image, c'est-à-dire ce n'est pas parce que je suis croyant que je suis à l'abri de quoi que ce soit par rapport à celui qui n'est pas croyant.
Voilà.
C'est-à-dire, tous deux, celui qui croit au ciel comme celui qui n'y croit pas, tous deux voilà. Sont soumis aux lois de la nature, aux lois du vivre ensemble. Mais cela ne veut pas dire, pour autant, abandonner le combat juste. Comme certains disaient, c'était le combat de la foi. Quand on dit le combat de la foi, c'est-à-dire dans les convictions d'un vivre ensemble meilleur.
Tout à fait, tout à fait. Ce sont les enfants qui sont manichéens. Par exemple, dans un western, ils cherchent les bons cow-boys, les méchants indiens. Après, on a réfléchi et il y a des westerns qui ont pris le parti des indiens et qui ont dénoncé le génocide.
N'est pas le méchant celui qu'on pense.
Ouais, n'est pas méchant celui qu'on pense. Hein. Et quant au doute, il est essentiel. Hein. Je crois, viens en aide à mon manque de foi. Hein. J'ai foi, viens en aide à mon manque de foi. C'est une parole magnifique de l'Évangile. Hein. Il faut en tenir compte.
Mais... C'est comme la question de la tentation, on pourrait faire un parallélisme avec le jardin d'Éden, on pourrait dire c'est la faute à Dieu, hein. Pourquoi a-t-il planté cet arbre de la connaissance au milieu? C'est exactement la manière dont certains criminels se justifient d'avoir violé une belle fille,
oui, oui.
Parce qu'elle était belle.
Oui.
Si elle avait été moche, on ne l'aurait pas violée. Donc c'est sa faute. Oui, parce qu'elle était en mini-jupe. C'est sa faute. C'est une manière de se disculper et rejeter la faute sur l'autre. Comme on a dans... Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que cela m'arrive? C'est-à-dire qu'on est effectivement à ce moment-là dans un pugilat.
Oui, dans un pugilat. Je pense qu'il ne faut pas faire l'impasse sur ces dieux méchants qui naissent aujourd'hui des cauchemars et d'un Hadès enseveli dans l'homme. Ils n'ont pas disparu. Une société ne peut faire l'impasse sur ces cauchemars. Nous allons écouter une chanson qui est un peu kitsch, mais faites bien attention au tout début, à la première strophe que vous allez entendre.
Minuit chrétien sera solennel où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Le monde tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici est libre et le ciel est ouvert. il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ce qu'enchaîne le fer. Qui lui dira notre reconnaissance? C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple de beaux, chante la délivrance. Noël, Noël, chantons.
Sur FM+, dans l'émission Des mots pour le dire.
Des mots pour le dire, une manière de comprendre la culture générale avec Michel Théron toujours. Alors Michel, la semaine dernière c'était Johnny Hallyday, là vraiment vous nous emmenez sur...
Nous changeons de registre de chanteur. Alors j'ai dit, faites bien attention à la première strophe de ce Minuit chrétien chanté par Tino Rossi. Donc c'est le Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Alors voilà l'important, pour effacer la tâche originelle, le péché originel depuis Augustin, hein, et de son père apaiser le courroux, vous voyez. Donc Dieu est présenté comme quelqu'un qu'il faut apaiser, dont il faut justement mitiger, modérer ou supprimer la colère, hein, vous voyez. Bon, c'est terrifiant. Moi, je chantais ça, j'entendais ça quand j'allais à la messe autrefois, en tant que catholique. Je ne faisais pas attention aux paroles. C'est vrai que la musique est belle, peut-être, hein, bon, assez... Mais alors, cette phrase, théologiquement, est inadmissible. Je crois d'ailleurs qu'elle est interdite, qu'on ne le chante plus maintenant, le Minuit chrétien à la messe catholique.
Hein. Je sais pas, mais c'est vrai que depuis Luther, les réformés ont cessé d'avoir cette théologie. Là,
Dieu qu'il faut apaiser.
Qu'il faut apaiser, oui, par le sacrifice. Et c'est déjà, disons, dans l'Ancien Testament, effectivement, le débat a été, ça faisait partie des discussions que nous avions tous les deux entre le sacrifice ou non-sacrifice d'Abel, c'est pas.
l'idée du sacrifice d'Abraham devant sacrifier son fils, par exemple. Et dans la messe catholique, alors, puisque je viens du milieu catholique, lorsqu'on la disait en latin, il est question maintenant d'y revenir, hélas, hein, eh bien, à l'offertoire, il y a la formule suivante. Je le dis en latin, Anc igitur oblationem, quae sumus domine, ut placatus accipia. C'est-à-dire, le prêtre dit, cette offrande que nous te présentons, nous te demandons, Seigneur, que tu l'acceptes, un étant par elle apaisé, placatus, voyez le mot implacable, hein. Donc c'est bien un Dieu colérique qu'il faut apaiser par le sacrifice du Fils, vous voyez. C'est une théologie inadmissible que les Sauciniens, par exemple, avaient récusé. Alors aujourd'hui on biaise et on met pour te plaire. Mais attention, placaré n'est pas plaqueré. Plaqueré, ça veut dire plaire, hein, mais placaré, c'est apaisé. Donc le texte porte apaisé. Alors j'espère qu'on ne reviendra pas à ce messe en latin. Ou alors, comme peu de gens connaissent le latin, ils comprendront pas cette théologie barbare, hein, mais elle existe.
Mais souvent, c'est pour apaiser les barbares.
Ah oui, 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 tout à fait. Un dieu qu'il faudrait apaiser par le sacrifice. Et les Sauciniens disaient que si Dieu a été payé par le sacrifice de son fils, il n'a pas pardonné, parce que pardonner implique que l'on efface une ardoise, que l'on efface une dette. Mais si le créancier a été payé par le sacrifice, alors il n'y a pas eu de pardon, vous voyez.
Oui, c'est pour ça qu'il y a eu tout un processus de réflexion théologique qui a amené ce qu'on appelait la théologie du process. Oui. C'est vrai que pendant très longtemps on a dit on est sauvé grâce au sacrifice
oui,
du Christ.
Tout à fait.
Et il dit même sans le sacrifice du Christ on est sauvé.
Oui.
Donc il y a tout ce n'est pas le sacrifice qui fait le salut,
oui,
mais c'est le regard bienveillant de Dieu.
Voilà, voilà, et je pense que c'est beaucoup plus sain. Alors, je terminerai par des considérations sur extraversion et introversion, parce que vous voyez, tout ce que nous venons de dire, eh bien, nécessite une introspection, hein, pour éviter justement cette névrose personnelle ou collective qui est la séparation de deux moitiés de l'être, l'être profond et l'être socialisé, il faut plonger au fond de soi et descendre à la cave. Alors, il y a notre personnalité comme une maison, hein, où il n'y a pas que les étages supérieurs qui existent et qui comptent, et les pièces d'habitation, il y a aussi la cave, les murs de soutien, les fondations. Donc, osons descendre à la cave, et même selon Jung, il y a deux caves, une première qui est notre passé personnel, et une seconde, la plus profonde, qui est le fond de notre nature d'être humain, et qui contient le passé de toute humanité. Alors, pour explorer l'âme profonde et rétablir l'unité de l'être, qui peut toujours être rompue par le modèle social, il faut bien évidemment commencer par s'intéresser à soi-même. Donc, favoriser en nous l'introversion. Et cela ne va pas de soi, parce que toute la société ne valorise que l'autre tendance de l'être, l'extraversion. Alors, c'est Jung qui, dans un livre appelé « Type psychologique », à différencier l'introverti de l'extraverti. L'introversion, c'est le fait d'être tourné vers soi, d'être à l'écoute de soi. Les artistes, les rêveurs sont ordinairement des introvertis. Et extravertis, au contraire, sont ceux qui sont tournés vers l'extérieur d'eux-mêmes, vers les autres ou vers le monde environnant, les chefs, les conquérants, etc. Et actuellement, le modèle à la mode en Occident, c'est le modèle de l'extraverti. Alors, peut-être aurons-nous l'occasion de revenir pour caractériser ces deux types. Hein. Je signale simplement...
On dit généralement décomplexé, comme on dit la droite décomplexée, ah, oui, la gauche décomplexée, le capitalisme décomplexé.
Tout à fait, tout à fait. Pour bien distinguer un extraverti d'un introverti, il faut prendre l'exemple d'une expérience nouvelle qui est proposée. Eh bien, devant une expérience nouvelle, un introverti aura peur et se repliera frileusement sur lui-même. Il a peur de l'inconnu, il se rattache à ce qu'il connaît déjà, et au contraire, un extraverti désire connaître ce qu'il ne connaît pas. Par exemple, une porte ouverte sur du noir effraiera un introverti qui va vouloir la refermer. Elle fascinera un extraverti qui veut la franchir et aller voir ce qu'il y a derrière. Donc, on n'a pas le temps maintenant pour cette émission, je crois, de développer extraversion et introversion. Nous y reviendrons. Simplement, je vais conclure sur deux modèles, figurez-vous, hein. La différence entre le chien et le chat. Hein. Eh bien, qui fait aujourd'hui attention à ses rêves? Pratiquement personne. Cela supposerait un certain calme, une disponibilité, l'idée même que les rêves sont importants. Mais le réveil sonne, on saute à bas du lit aussitôt et on court au-devant de l'action. Alors le réveil sonne et là, c'est Redouane, quand il sonne trop tôt. Alors regardez comment un chat se réveille. Il met très longtemps à se réveiller, il s'étire pendant de longues minutes, il ne commence pas à s'agiter de façon épileptique comme nous le faisons. Il faudrait prendre leçon sur cet animal magique. Et le chat est un animal non socialisé, à la différence du chien. Il n'y a pas de chat policier. Hein, le regard du chat est non finalisé, il nous scrute, il nous juge, il est lointain et absent. Le regard du chien, au contraire, il est finalisé et intéressé, plein de proximité et d'Einfühlung, d'empathie. Hein. Le chat est un animal introverti, je dirais asocial, détaché emblématiquement du pouvoir, hein, c'est pour ça qu'on ne peut pas le dresser et qu'il n'y a pas de chat policier. Mais le chien, au contraire, est du côté de l'ordre dont il est le gardien. Les possesseurs de chiens et de chats n'ont pas la même structure mentale. Les possesseurs de chiens, hélas, très souvent sont ce que j'appelle des petits fascistes. Ici le chien, ici au pied, etc. Mais le chat ne se laisse jamais dresser. Vous savez que le chat s'attache au lieu, alors que le chien s'attache aux êtres. Et êtes-vous chat ou chien? Voilà ce qu'il faudrait demander comme questionnaire de personnalité aux gens. Alors on nous dit que les chiens ne font pas des chats. Je dis moi, hélas, hein, qu'il me semble beaucoup plus chat que chien. Alors lisez le poème de Baudelaire, les chats, hein. Je vois avec étonnement le feu de ses prunelles pâles, claires fanaux vivantes opales qui me regardent fixement. Donc nous allons écouter le duo des chats de Rossini, qui est un modèle d'humour.
Merci Michel, je ne sais pas si je suis chat ou chien, je me regarderai le matin comment je me réveille. Pendant notre discussion d'aujourd'hui, vous avez fait allusion à plusieurs reprises à l'Évangile de Thomas. Je rappelle à nos auditeurs que vous venez de sortir un livre, justement, l'Évangile de Thomas, dont le titre
Titre, c'est « Une voix nommée Jésus », voix V-O-I-X, et le sous-titre « L'Évangile selon Thomas ». Il est paru chez Dervy à Paris, et il est dans toutes les librairies actuellement. Voilà,
on aura l'occasion de revenir dessus, une émission spéciale sur l'Évangile de Thomas. Merci, à la semaine prochaine, et à bientôt.
Au revoir à tous. Thank you.